Pour cette deuxième table ronde, nous allons continuer à donner la parole à des autrices sélectionnées pour le Prix Maya 2024. Pour rappel, le Prix Maya récompense chaque année depuis 2019 des ouvrages de fiction qui font avancer la cause animale dans trois catégories, romans, bande dessinée et livres jeunesse. Les lauréates du Prix Maya 2024 seront dévoilées tout à l'heure à 14h sur le plateau de Radio Campus Tour, ici même. Alors les deux autrices que nous recevons maintenant sont Clara Cuadrado et Noémie Weber. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors Clara Cuadrado, vous êtes l'autrice et illustratrice de la bande dessinée Extrême, Assumer enfin son amour pour tous les animaux.
C'est ça.
Parue avec la maison d'édition Exemplaire. Et Noémie Weber, vous êtes l'autrice et illustratrice de la bande dessinée Le Monde des Animaux Perdu, paru chez Gallimard Bande Dessinée. À noter que votre BD est sélectionnée dans la catégorie livre jeunesse, parce qu'on avait sur cette table ronde, on avait dit BD, mais il faut préciser que c'est la sélection livre jeunesse. On va commencer avec vous, Clara Cuadrado, si
Allez.
Vous voulez bien. Donc, on va parler de la bande dessinée Extrême, mais avant, est-ce que vous pouvez nous raconter votre compagnonnage avec l'univers de la bande dessinée qui, il me semble, a commencé assez tôt, je crois.
Oui, bah en fait, j'ai grandi dans l'univers de la bande dessinée parce que mon père est auteur de BD. J'avais pas forcément envie de devenir autrice de bande dessinée, ça me faisait pas tellement rêver parce que c'est beaucoup de travail, c'est un métier qui est assez précaire, enfin voilà, ça faisait pas rêver. Finalement, j'ai fait une école d'art et j'en suis arrivée à faire la bande dessinée et du coup, c'est génial, le plaisir de travailler en jogging chez soi. Et j'ai sorti plusieurs BD chez différents éditeurs et ça s'est fait voilà, petit à petit et que des expériences super.
Alors, votre bande dessinée Extrême, qui est un véritable guide informatif sur le spécisme et l'exploitation animale et sur la manière d'aborder sa transition vers le véganisme, tout cela avec beaucoup d'humour, et le prolongement d'un compte Instagram, Amour, Gloire et VG, que vous tenez depuis 2017. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a conduit à créer ce compte Instagram, ce que vous y partagez, puis ensuite la jeunesse plus spécifique de la BD Extrême?
Oui, en fait, au début, ce n'était pas tout à fait assumé, parce que je suis devenue végétarienne dans un premier temps, parce que j'ai eu une sorte de gros déclic avec des images de violence en abattoir diffusées par L214. Et à ce moment-là, j'étais donc autrice de bande dessinée et illustratrice de métier, mais j'avais pas envie forcément de mélanger ça parce que je sais pas, je voulais pas qu'on me colle une étiquette, j'étais pas encore finalement assez engagée, quoi. Et j'avais un blog BD à l'époque, donc j'ai fait une note de blog pour raconter comment je suis devenue végétarienne et rapidement végane en vrai, c'est venu vite après. Et la note de blog a super bien marché. Ça a été beaucoup relayé par L214, par PETA, tout ça, et je me suis dit, bon, j'ai l'impression qu'en fait il y a quand même des gens qui sont intéressés, il y a un lectorat, et du coup j'ai créé le compte Instagram juste à ce moment-là, et du coup je faisais des illustrations très régulières en racontant au début même pas mon propre quotidien, parce que encore une fois j'osais pas vraiment m'approprier vraiment toute cette expérience, je la racontais comme on raconte une histoire, et finalement après les personnages ont changé et là j'ai vraiment assumé complètement la chose et je me suis dit non mais en fait c'est quelque chose que moi je vis et j'ai envie de me lancer à fond là-dedans, et donc du coup j'ai pris l'habitude de raconter mon quotidien et ma sensibilité par rapport au sort des animaux en dessin, et j'ai de la chance parce que les gens sont hyper sympas, particulièrement sur Instagram. Il y a une sorte d'effet de communauté vraiment génial parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de conseils et j'adore.
Alors justement, votre BD est très bien documentée, extrêmement bien documentée. sur quelle source vous êtes-vous appuyée?
Je dirais honnêtement des informations qui viennent d'Internet ou de lecture, ou alors pas mal des associations comme L214, que je ne fais que citer, mais sur leur site il y a quand même beaucoup de chiffres qui sont des super références, donc je me suis basée sur ça et c'est aussi de la réflexion dans cette bande dessinée, donc pas forcément juste des sources et des faits, même si bien sûr c'est important, mais il y a aussi tout le cheminement philosophique et intellectuel qui est propre à chacun, mais voilà, ça j'en parle beaucoup aussi, ça prend une grande partie du livre.
Et c'est vraiment sur le côté spécisme, il y a la couverture de votre bande dessinée qui est quand même assez marquante, assez exemplaire pour montrer ce qu'est le spécisme. Est-ce que vous pouvez, alors là c'est vrai que on est à la radio, mais peut-être expliquer un petit peu cette couverture aux auditeurs et auditrices.
Oui, ouais. En fait, sur la couverture, il y a un cochon découpé comme on connaît pour le, par exemple les affiches de boucherie, avec donc les morceaux de viande voilà, selon chaque partie du corps. Et juste en dessous, un chien découpé de la même façon, mais sur chaque partie se trouvent des... Il y a écrit câlin, bisou, gratouille, toutes les marques d'affection en fait, selon la partie du corps qu'on peut offrir à un animal de compagnie. Et du coup, visuellement, c'est extrêmement proche, mais si on lit juste ces petits détails sur les deux animaux, en fait, c'est là qu'on voit un peu la violence de la différence de traitement. Et du coup, le spécisme, c'est par définition le fait de hiérarchiser les espèces, ce qu'on fait, ce que tout le monde fait. On grandit en faisant ça. Enfin, c'est complètement normal de toujours mettre en priorité le sort de l'espèce humaine. Mais l'antispécisme, eh ben, justement, c'est une réflexion pour essayer de repartir de zéro et se demander en fait pourquoi est-ce qu'on hiérarchise de cette façon, pourquoi il y a des espèces qui sont aussi bien traités comme les animaux de compagnie ou les animaux domestiques, et pourquoi il y a des espèces qui sont considérées comme des nuisibles ou chassées ou exploitées ou donc consommées, ou pourquoi il y a des espèces sauvages qui sont hyper respectées, qui sont très nobles, tout ça. Et ça c'est des critères complètement humains, des critères physiques, des fois un peu de grâce ou de noblesse que certains animaux ont comparé à d'autres. La taille aussi, des fois, ça peut jouer. Et du coup, l'antispécisme, c'est vraiment une réflexion sur tout ça, sur... et si finalement, on arrêtait de se placer en tant qu'humain au centre de tout, et qu'on essayait juste un petit peu humble, et finalement se dire qu'on n'a pas à intervenir sur le sort des autres, et que chacun mérite sa place sur Terre.
Voilà. Vous racontez bien, hein, dans la bande dessinée, à quel point la découverte de l'ampleur de l'exploitation et de la souffrance animale peut être un choc. Un véritable chamboulement qui change notre rapport au monde et aux autres. Quels conseils donnez-vous pour affronter cette période où l'on peut se retrouver isolé ?
Je pense que maintenant... Bon, c'est vrai que, par exemple, les images d'abattoirs, je pense que même si on mettait un pied dans un abattoir, soit on s'évanouit, on tombe de l'œil, soit on vomit. Enfin, c'est extrêmement violent, au point que, justement, c'est pas du tout ouvert au public, c'est normal. Et je pense que les gens qui sont sensibles au sort des animaux, c'est difficile, hein, parce que forcément, ben, moi, bizarrement, j'étais pas si sensible à ça, parce que je mangeais beaucoup de viande et que j'avais, voilà, dans mon idée, ben, c'était normal d'en manger. Donc j'adorais les animaux, mais à côté de ça, j'avais pas encore trop de problèmes. Et finalement, c'est venu à l'âge adulte. Mais les gens qui sont vraiment sensibles à ça, je pense qu'il faut essayer de banaliser cette sensibilité et se dire, enfin, il faut même l'accueillir en fait. Je pense que maintenant, c'est ce que j'essaie d'inviter les gens à faire, c'est se dire que c'est une chance en fait d'être sensible et d'aimer les animaux et d'avoir de la compassion, et du coup s'ouvrir à ça vraiment. Et bon, bah, du coup, il y a les réseaux sociaux pour ça aussi, parce qu'il y a de l'échange par ce moyen-là. Parce que des fois, il y a des gens qui se sentent isolés, des jeunes personnes par exemple qui m'écrivent dans leur famille, c'est compliqué parce qu'ils se sentent un peu. Ils passent pour les zinzins de la famille à en faire des caisses, alors finalement c'est jamais trop, et à pas être compris, donc ça peut être un peu douloureux.
Alors justement, dans cet ordre d'idées là, parfois vous parlez dans le livre beaucoup des arguments anti-vegan, c'est-à-dire que effectivement on parlait de la découverte, effectivement, et le choc de la découverte de l'exploitation des animaux, mais après effectivement quand on choisit de faire sa transition, parfois c'est assez difficile et on a, voilà, beaucoup de contre-attitudes et beaucoup d'arguments anti-vegan. Et vous donnez quelques exemples de ces arguments anti-vegan, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu et comment on peut survivre effectivement par rapport à cet argumentaire qui nous est toujours
en fait, ce qui est facile, je trouve, c'est que souvent les arguments anti-vegan ne sont pas bons du tout. Des fois je me dis, j'aimerais bien, moi, qu'on me donne des bons pour qu'on puisse débattre, parce que je pense qu'il y a des contre-arguments qui peuvent s'entendre, mais généralement les gens sont encore souvent à des réflexions du style on a besoin de la viande, bon voilà, si on en est encore là, c'est voilà. Ou alors bon, le lait, on en a besoin pour le calcium, les enfants ne pourraient pas s'en passer. Oui, mais les animaux, ils peuvent être exploités, mais dans de bonnes conditions. Et le soja, j'en peux plus. Enfin, c'est toujours et le soja qui est mauvais pour la planète, ben c'est à cause des véganes, rien à voir. Donc bon, à chaque fois, c'est facile finalement, une fois qu'on est un petit peu documenté, juste de répondre à ça de manière vraiment simple. Mais de toute façon, quelqu'un qui va venir avec des arguments anti-vegan, c'est quelqu'un qui de toute façon n'aura pas envie d'être convaincu. Donc ça, c'est moi au début, j'étais vachement dans l'émotion et j'étais vraiment prête à défendre comme ça mes idées. Et j'ai un peu lâché prise là-dessus parce que je me dis, quelqu'un qui vient pour m'embêter entre guillemets, j'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. J'ai envie de mettre de l'énergie sur des trucs qui sont plus importants. Et en revanche, les gens qui ont une curiosité, ça, je suis ravie d'en discuter. Et je pense que c'est bien de s'épargner aussi un peu.
Très bien. L'humour est très présent dans votre travail. La cause animale, c'est un sujet sérieux. Pensez-vous que l'humour puisse être une stratégie efficace pour contribuer à rendre plus audibles les arguments en faveur de la défense des animaux ou du véganisme ?
Oui, complètement. Parce que bah, y a forcément un côté un peu tristou, hein, quand on parle d'exploitation animale, je veux dire tristou, voire même déprimant, hein, parce que c'est pas drôle. Mais si on choisit de mettre un petit peu d'humour aussi dans son argumentaire et dans sa communication, je pense que c'est bah, forcément ça convainc toujours un peu plus quand c'est marrant, quoi. Bien sûr. Puis moi, je fais de la BD humoristique, donc c'est sûr que finalement c'est presque que comme ça que je sais communiquer. Donc j'ai réussi à allier les deux, mais c'est pas bon. Après, c'est bien aussi qu'il y ait des plateformes ou des gens qui communiquent ça de façon très sérieuse, parce que voilà, quand il faut des chiffres et tout, c'est bien. Mais je pense qu'on peut aussi un peu rigoler de soi, le fait d'être végane. Des fois, il y a certains clichés, mais sans doute que des fois on colle à certains clichés et c'est marrant, quoi.
Oui, alors vous abordez aussi la question de la convergence des luttes, qui est une question très importante. Comment peut-on penser les liens entre cause animale ou antispécisme et les luttes contre d'autres formes de discrimination, d'oppression ? Y a-t-il d'autres luttes qui vous animent particulièrement actuellement, outre la cause animale ?
Bah alors ça, c'est un débat qui est hyper intéressant, parce que dans le véganisme et dans les gens qui sont antispécistes et véganes, on n'est pas tous raccord sur nos valeurs. Et il existe, par exemple, des gens antispécistes d'extrême droite. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon, on peut toujours en discuter. Mais à partir du moment où on est sensible à l'injustice, pour moi, on devrait l'être de manière générale. Et si on est sensible aux animaux, pourquoi on ne serait pas sensible aussi au sort des humains ? Pour moi, c'est quelque chose qui est un ensemble. Et ça n'a pas de sens de séparer comme ça les luttes. Et c'est marrant parce que moi, je suis devenue... Alors, je pense que j'étais une personne assez lambda en termes de conviction avant. Voilà, j'avais pas d'idée précise. Et je suis devenue végétarienne, puis rapidement végane. Et ça a débloqué ensuite chez moi toutes mes convictions féministes, mais vraiment sur le tard, quoi, parce que même pourtant je suis une femme et j'étais donc je suis plutôt concernée, mais j'ai jamais été victime de violence, quoi. Je suis blanche, donc je ne suis jamais été victime de racisme non plus, donc j'étais un peu dans mon petit confort. Et finalement, ça m'a de me sensibiliser au sort des animaux, ça m'a permis aussi de me sensibiliser finalement à tout le reste. Et maintenant, la convergence des luttes, c'est à un moment donné, en fait, tout s'emboîte, quoi. C'est complètement logique de défendre l'injustice de manière générale. Donc voilà, c'est pas le cas de tous les véganes, mais pour connaître quand même plutôt bien le milieu maintenant, je remarque que ce sont vraiment dans la grande majorité des gens qui sont sensibles à toutes les luttes, et ça me fait plaisir.
Est-ce que vous abordez d'autres thématiques dans votre travail d'autrice de bande dessinée, et si oui, lesquelles ?
Dans mon travail de bande dessinée, j'ai fait des BD pas engagées, mais sur des sujets divers. J'ai fait sur où je racontais mon mariage, où je racontais. J'ai fait une BD sur le yoga. Des fois, il y a des commandes aussi de la part des éditeurs, donc c'est très varié. En revanche, sur Instagram, et du coup, c'est un compte antispéciste, là, je me permets d'aborder d'autres sujets, comme là, en ce moment, on est dans un climat un peu particulier. C'est normal aussi de parler de ça. La Palestine, pour moi, c'est aussi extrêmement important de... Encore, je pourrais communiquer plus dessus, mais des fois, on se sent... C'est stupide, mais des fois, on se sent peut-être pas assez légitime. C'est vrai que je me sens des fois plus légitime à parler de féminisme et d'antispécisme parce que ça me concerne directement. Mais non, en fait, je pense qu'il faut vraiment parler de tout. Donc ça, j'y travaille, en tout cas, sur les réseaux sociaux.
Et je vais revenir sur la bande dessinée extrême. On parlait de l'édition exemplaire. C'était un mode d'édition un peu particulier. Vous pouvez en parler ?
Oui, c'est un éditeur alternatif. Alors moi, jusqu'à présent, j'étais qu'avec des gros éditeurs et c'était des expériences très, très sympas. Puis c'est confortable, hein, d'être chez un gros éditeur. Et Exemplaire, c'est un éditeur alternatif qui, du coup, fonctionne avec des financements participatifs. Donc il faut quand même déjà avoir une communauté pour que les gens soutiennent le projet. Et en fait, quand on est auteur de bande dessinée et auteur de manière générale, dans le camembert, dans la répartition des, voilà, des salaires, quoi, l'auteur gagne peu par rapport au fait que c'est quand même lui qui est, c'est grâce à lui que l'œuvre existe, en grande partie. Et l'éditeur exemplaire propose tout simplement que le but, c'est que l'auteur gagne plus, l'auteur ou l'autrice. Donc, on est sur environ peut-être 30-40% par rapport à un auteur. Bon, allez, c'est différent entre la BD ou les romans, tout ça, mais on va dire à peu près 10% peut-être pour un auteur classique. Donc, c'est pas évident de s'en sortir. Et là, exemplaire, ils ont des très gros auteurs chez eux aussi. Et ça, c'est bien parce que ça bouscule vraiment l'édition classique. Je pense que ça peut faire réfléchir des plus gros éditeurs à s'adapter parce que c'est forcément eux qui ont gros au bout du bâton en temps normal. Donc c'est vraiment un chouette éditeur à soutenir.
C'est pas de l'auto-édition en fait.
Non, c'est pas l'auto-édition.
Il y a vraiment une équipe derrière.
Ah, complètement, ouais. Oui, tout à fait. Oui, il y a un vrai travail en fait. C'est bon, après chacun travaille chez soi, donc c'est différent. C'est pas, il y a pas comme ça un établissement dans lequel on se rend comme chez un éditeur classique, mais le travail d'édition est le même. C'est juste que ça, en fait, tout est financé avec les financements participatifs, donc ça part de là.
Très bien.
Et peut-être pour terminer, est-ce que vous avez des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler?
Là, j'ai un livre jeunesse qui sort en septembre aux éditions Evalou.
Ils sont juste derrière.
Juste là, voilà. Et qui s'appellera Chez nous, c'est vegan. Et du coup, c'est la première fois que je fais quelque chose spécialement pour les enfants. Aussi un peu pour les parents, qui, si ça peut les convaincre aussi au passage. Mais ça va vraiment expliquer ce qu'est le véganisme et ce qu'est. Ce que c'est une famille végane qui a ce mode de vie là, et c'est, donc c'est expliqué de manière très simple, et je suis ravie d'en parler.
Eh bien, merci beaucoup Clara.
Merci
Chouadrado.
À vous.
On va passer à Noémie Weber, donc l'autrice illustratrice de la bande dessinée Le Monde des Animaux Perdus, paru chez Gallimard Bande Dessinée. Avant de nous parler donc du monde des animaux perdus, est-ce que vous pouvez aussi nous parler de votre parcours dans le milieu de la bande dessinée?
Alors moi j'ai pas fait de la bande dessinée tout de suite. En fait, j'ai fait d'abord des études de lettres. Je viens de Genève, en Suisse. J'ai fait mes études là-bas. Et moi, par contre, bande dessinée, ça me faisait plutôt rêver, auteur de bande dessinée, dans les années 80-90. Mais j'avais l'impression que c'était impossible. Enfin, que c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de très peu d'élus en fait qui réussissaient à publier. Donc, c'était pas vraiment un vrai métier. Donc, du coup, je me suis plutôt orientée vers des études plus classiques. J'ai fait ensuite, je suis devenue professeure de français au collège, et ça m'a pas beaucoup plu. Donc au bout de quelques années, j'ai décidé de me réorienter, et j'ai commencé à suivre une formation en ligne de bande dessinée qui a par la suite ouvert des classes réelles à Strasbourg. Donc j'ai quitté Genève pour aller à Strasbourg pour suivre cette formation. Et après, je ne suis plus jamais retournée en Suisse parce que je n'ai plus les moyens de vivre en Suisse. Donc je suis restée plusieurs années à Strasbourg, et ensuite j'ai déménagé dans le sud vers Toulouse. Et voilà, et je vis un peu en faisant quand même toujours un peu d'enseignement, mais plutôt comme professeur de français langue étrangère pour les adultes. Et je jongle entre ce métier-là et le métier de... d'autrice de BD, et d'illustratrice.
Dans Le Monde des Animaux Perdus, votre héroïne s'appelle Elsa. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques mots, ainsi que le point de départ de son aventure, s'il vous plaît?
Alors, Elsa, c'est une petite fille de 8 ans. Et elle est un peu... elle n'est pas très... Enfin, elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle est plutôt solitaire. Elle a son ami, entre guillemets, son seul ami, c'est son petit poisson rouge. Et donc quand le jour où elle se rend compte que ce petit poisson rouge ne bouge plus, elle refuse d'admettre la réalité. Et quand sa sœur le jette dans les toilettes, elle va aller le rechercher parce qu'elle est persuadée qu'il dort, en fait, tout simplement. Et donc, elle va essayer de le retrouver. Et donc voilà, quoi, c'est une petite fille. Donc j'ai voulu la faire un peu différente aussi, dans le sens où j'ai fait une petite fille un petit peu ronde, comme moi j'étais quand j'étais petite, parce que aussi j'avais un peu cette envie de montrer un enfant aussi qui est, enfin, j'ai l'impression qu'il y a souvent le même type de physique en fait chez les enfants, enfin chez les héros en général, hein, et mais aussi chez les enfants. Ce côté un peu normatif, moi quand j'étais petite, où j'étais un peu justement ronde, ça me dérangeait parce que j'avais l'impression que je pouvais pas vraiment m'identifier en fait aux personnages que je voyais, parce que voilà, ils étaient pas comme moi. Donc là j'ai décidé de, voilà, de faire justement, même si c'est pas du tout le thème du livre, mais de faire justement, enfin ça me paraissait bien de faire ce personnage justement un peu ronde, sans du tout que ça ait une importance dans l'histoire, comme si c'était tout à fait normal de représenter un enfant qui n'est pas forcément mince. Après tout, les enfants pas minces peuvent aussi vivre des aventures, en fait. Voilà.
Tout à fait, merci. Alors, comment vous est venue cette idée très belle, d'ailleurs, d'un monde des animaux perdus ? Quelles ont été peut-être vos sources d'inspiration ?
Alors, en fait, ce que je me rends compte, j'ai un peu ce problème en ce moment, c'est que j'ai du mal à retrouver un sujet vraiment qui me de projet, en fait, parce que j'ai beaucoup d'idées. J'ai en tendance à me demander, oui, sur quoi j'ai envie d'écrire, quel sujet j'ai envie d'aborder, de partir comme ça sur le concept, sur quelque chose de conceptuel. Et en fait, je me rends compte que ça marche beaucoup mieux pour moi quand je ne pars pas du tout sur quelque chose de conceptuel. Et là, c'était le cas, en fait. Je ne suis pas du tout partie, je ne me suis pas du tout dit « Ah, je vais faire une BD sur le deuil des animaux de compagnie ». En fait, je voulais faire une histoire pour enfants et je suis partie sur les toilettes, en fait. Parce qu'il y a cette idée que, du petit poisson qui est jeté dans les toilettes. Et en fait, à la base, j'étais... voilà, je voulais faire une histoire. Je me suis dit, les enfants, c'est un peu mystérieux, les toilettes, qu'est-ce qui se passe dedans, ça va où, etc. Donc j'ai réfléchi autour de ça. Et au départ, j'imaginais peut-être qu'il y aurait un monstre, quelque chose qui pourrait sortir des toilettes. Puis bon, voilà, je ne trouvais pas vraiment la suite, quoi. Et après, je me suis dit, mais peut-être plutôt partir sur l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qu'on met dans les toilettes. Qu'est-ce qu'on met dans les toilettes ? Bon, voilà, par exemple... Un poisson, un petit animal dont on veut se débarrasser parce qu'il est mort, on peut le mettre dans les toilettes. Et voilà. Et donc, je suis partie comme ça sur l'idée du petit poisson et qui m'a amenée à l'idée plus générale des animaux, en fait, de compagnie et du deuil. Et voilà.
Et donc, c'est effectivement dans votre BD, effectivement, bah, vous nous expliquez bien que c'était pas l'idée de base, mais finalement, ça aborde un peu le sujet de la maltraitance animale de manière indirecte.
Après, tout s'enchaîne, en fait. Ouais, il y a le deuil, ouais. Après, donc on parle des animaux. Donc, moi, je me fixe de rester sur les animaux de compagnie et pas partir sur trop élargir le sujet. Mais du coup, évidemment, on pense tout de suite aux chiens abandonnés. Enfin, après, il y a toute la thématique de la maltraitance des animaux de compagnie qui se greffe.
Et ça, c'était même si ce n'était pas effectivement le sujet que vous aviez choisi initialement, c'est un sujet auquel vous êtes sensible, en fait, celui de la maltraitance animale.
Oui, bien sûr, parce que moi, j'ai beaucoup d'animaux. En fait, j'ai 14 chats, enfin 13, parce qu'il y en a un, malheureusement, qui vient de mourir. Et voilà, avec mon compagnon, on a des poissons aussi. Lui, il a des ruches, des abeilles. Donc, on est très sensible, aux animaux, en fait. Quand on commence à vivre avec des animaux, après, ben, on peut plus s'en passer, et puis on peut plus être indifférent, en fait.
Au-delà de la bande dessinée, est-ce que vous avez d'autres formes d'engagement pour les animaux ? Donc, on a entendu votre vie au milieu de nombreux chats.
Alors, pas spécialement, je dois dire. C'est vrai que on est un peu dans la, avec mon compagnon, un peu dans la dissonance cognitive, on va dire, parce qu'on n'est pas vegan. Et on a essayé, bah pareil, en voyant des vidéos de L214, pendant une année, on s'est dit, on devient en tout cas végétarien. Après, on était là, bon, allez, quand même, on mange un peu de poisson, parce que voilà. Puis finalement, on a tenu une année en mangeant du poisson, mais plus de viande. Et au bout d'un moment, on a recraqué, quoi. Donc. Voilà. Donc je peux pas dire que je sois vraiment engagée sur cette cause-là, mais bon, on fait des efforts, on essaiera peut-être de s'y remettre.
Vous trouverez peut-être des conseils justement dans les livres de Clara.
C'est un cheminement de toute façon.
Ouais, c'est ça.
Ah, Clara, vous pouvez répéter ce que du coup le micro était coupé.
Oui, je disais, c'est un cheminement de toute façon. Il y a des gens qui font des allers-retours et c'est pas grave parce que rien que le fait d'y songer et d'essayer, c'est déjà bien. Mm. C'est jamais perdu. Et c'est pas. Il y a des gens, ça se passe en vraiment en quelques jours, c'est réglé, et d'autres, c'est beaucoup plus long que ça. Donc, mm. pas perdre espoir.
On y arrivera peut-être. Ouais.
Alors, il y a une scène dans le livre Le Monde des Animaux Perdus qui est assez savoureuse, où il y a les animaux qui se questionnent et qui débattent pour savoir si Elsa, cette mm-hmm. petite fille, votre héroïne, est un animal ou non, ouais. en convoquant des philosophes connus comme Aristote ou Rousseau. Et qu'est-ce que vous pensez en fait de cette limite infranchissable qu'on met souvent entre les humains d'un côté, les animaux de l'autre? Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez justement questionner?
Ouais, alors moi, je pense que... effectivement, c'est une question en fait. Moi, dans la mesure où je mange des animaux, je peux pas dire pour moi les animaux c'est exactement la même chose que les humains. Enfin, je peux. Mais c'est vrai que c'est une question qui est sur laquelle je me questionne. Enfin, spontanément, j'aurais tendance à dire il n'y a pas de différence entre les animaux et les humains. Et après, du moment que je mange de la viande, c'est difficile à tenir quand même. Donc, on va dire que c'est un questionnement pour moi, sur lequel je n'ai pas encore vraiment la réponse.
Le Monde des Animaux Perdus aborde aussi la question de notre relation affective aux animaux, la question du deuil, on l'a dit tout à l'heure. Avez-vous vous-même été marqué par des relations avec des animaux et par leur perte?
Alors, oui, moi j'ai eu des chats. Donc, j'ai eu des chats enfants. Mais qui sont morts quand j'étais adulte. Moi, je n'ai pas eu d'expérience en tant qu'enfant de perte d'animal. Parce que justement, les deux chats que j'avais, ils ont vécu jusqu'à 20 ans. Donc, en fait, quand ils sont décédés, j'étais déjà bien adulte. Mais c'est vrai que quand on vit avec des animaux qui sont toujours avec nous, c'est des vrais amis, en fait. C'est vraiment... Et maintenant qu'on vit avec beaucoup de chats... Vraiment, on se rend compte qu'ils ont tous leur personnalité. C'est vraiment des individus, en fait. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y en a un qui part, c'est vraiment difficile. Après, moi, j'ai pas d'enfants, donc je peux pas... j'ai tendance, je pense, à reporter beaucoup mon affection aussi sur les animaux. Et j'imagine bien que c'est pas du tout pareil... d'avoir un enfant et un animal, mais quand même quand un animal part, quand on prend un animal, on sait qu'il partira avant nous, et c'est vrai que c'est il faut avoir conscience du fait qu'on va vivre beaucoup de deuil quand on a beaucoup d'animaux.
Dans la BD, on est très touché par le lien qui unit Elsa à son petit poisson rouge qu'elle retrouve à la fin. D'ailleurs, il a un peu grossi. Ouais. on aimerait aussi évoquer votre travail d'illustration, parler un peu du dessin. On trouve que dans la bande dessinée, il y a vraiment un beau travail sur les couleurs, parce que moi, j'ai trouvé. Et il y a des illustrations grand format. Il y en a quelques-unes qui sont particulièrement réussies. Par exemple, celle où on voit Elsa nager parmi les poissons. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos choix graphiques dans cette bande dessinée?
Oui, alors bon, moi je suis pas à la base, je suis pas très à l'aise avec la couleur en fait. Je suis plus une dessinatrice de noir et blanc, mais en même temps, comme mes histoires, même quand j'essaye de faire de la BD pour adultes, ça finit toujours par être un peu pour enfants quand même. Et donc pour les enfants, il faut quand même dessiner en couleur, quoi. C'est quand même la couleur est importante. Donc j'ai fait un travail sur la couleur un peu comme je pouvais, c'est-à-dire avec les quelques fonctions de Photoshop que je connais. Donc je travaille que par aplat en fait de couleurs, mais par contre je fais des effets de transparence, donc avec les calques et voilà. Donc la fameuse image avec les poissons, donc c'est justement des superpositions de calques dans certains calques. Donc j'ai découpé des formes des silhouettes de poissons, donc du coup on voit la couleur du calque qui est en dessous. En fait, c'est vraiment un travail si on imagine la chose de manière physique avec des feuilles de papier calque, c'est comme vraiment c'est un travail de découpage dans du papier calque en fait, où on voit en fait la feuille d'en dessous qui je sais pas si c'est très clair ce que je dis.
En tout cas, le résultat est très très réussi.
Oui, très beau. Quel accueil a eu votre bande dessinée auprès du public, dans les festivals?
Alors, dans les festivals, ouais, j'ai obtenu un prix au festival de Bologne d'illustration, donc une mention spéciale du jury. Et sinon, la BD a été un petit peu dans quelques sélections en Suisse, parce que comme je suis suisse, j'ai la possibilité de participer à des prix aussi là-bas. Et voilà.
Est-ce que vous avez réalisé d'autres BD sur le thème des animaux, et puis est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous aimez aborder dans votre travail ?
Alors, j'ai fait que deux bandes dessinées en tout, et j'ai fait un livre jeunesse donc, qui mettait en scène des animaux. Alors justement, c'était un peu une espèce de... C'était un thème qui est un peu à contre-pied du végétarisme, puisque c'était l'histoire d'un petit mouton qui mangeait de la viande. Donc, c'était il y a longtemps. Et donc ça, c'était mon premier livre. Et le deuxième livre, non, c'était pas sur les animaux, mais ça touchait au thème de la nourriture aussi, puisque c'était une bande dessinée sur la junk food. Et c'était en fait une parodie du livre de la jungle, mais dans un monde de junk food, où finalement il y avait une opposition entre les légumes, la junk food. Voilà, c'était un petit garçon qui devait retrouver, qui avait été abandonné dans un fast food et qui devait retrouver son père qui était trafiquant de légumes. Voilà. Mais c'était pas spécialement sur les animaux.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos projets en cours ?
Alors, bah justement, comme je disais, j'ai un peu eu du mal à retrouver un sujet. Et pour le moment, je pense que j'ai trouvé une idée, mais qui va plutôt pas du tout être en rapport avec les animaux cette fois-ci, qui va plutôt être une histoire sur un peu d'anticipation, un peu dystopique sur la question du travail et de la précarité, en fait. Voilà. Donc, ce sera plutôt un projet pour adultes, de BD pour adultes. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Noémie Weber. Merci, Clara Cuadrado, pour
merci à vous.
Avoir accepté notre
merci.
Invitation. On se donne rendez-vous dans 10 minutes pour la remise des prix Maya.
OK. You've got a chest full of little things. Keeps you remembering all the years. You got a chest full of little things. Keeps you holding on to all the years. And your mouth is open, you're telling me things you wanted to say. Oh,
Bonjour à tous. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est le moment tant attendu de la Vegan Place, la remise du prix Maya que je vais présenter très rapidement. Donc, le prix Maya, ben, ici, on en est très fiers parce que c'est un prix littéraire animaliste. Il n'y en a pas beaucoup. On est même assez unique. Ici en France. Donc voilà, on est très fiers chaque année de le remettre. Donc vous avez sous les yeux, alors je sais que c'est pas très radiophonique, mais vous avez sous les yeux la sélection qui était celle de cette année. Donc une vaste et belle sélection. Il a fallu trancher trois catégories, la catégorie récit, roman, la catégorie album jeunesse et la catégorie bande dessinée. Donc, avant de vous annoncer les lauréats, eh bien, peut-être vous dire que nous avons une marraine qui est ici, c'est Florence Delry, artiste polyvalente qui nous accompagne depuis plusieurs années, qui offre la récompense donc, à chacun des lauréats. Voilà, donc on est très heureux évidemment de l'avoir avec nous. Et on a aussi un jury d'exception, hein, composé de plusieurs personnes à qui je vais passer le micro et qui vont se présenter et qui feront ensuite l'annonce des lauréats. Alors avant cela, peut-être quelques mots de Betsa Beas qui n'est plus là. Ah si, pardon, je vous voyais plus. Donc quelques mots de Betsa Beas.
Oui, écoutez. Alors là, les petits mots. Je regardais les ouvrages qui ont tous l'air aussi passionnants les uns que les autres. Écoutez, je suis très très heureuse d'être là. Je les ai fait un peu tomber, excusez-moi. Et puis, c'est toujours un plaisir de voir toutes ces auteurs autrices sur ces sujets extrêmement ô combien importants. Aujourd'hui, je pense que il y a personne ne remet en question les sentiments des animaux. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller sur les droits. On y travaille. Et je pense que ça, c'est encore, il y a encore pas mal de boulot. Donc, merci pour tous ces ouvrages qui permettent de nous acculturer, de le faire avec émotion, de le faire avec le rire, de le faire avec aussi des éléments factuels, hein, et scientifiques qui permettent d'affiner notre perception de tout ça. Je voulais quand même saluer Izzy Ochoa qui est là aujourd'hui et la féliciter pour ce film qui va sortir, Inch'Allah, on espère, mais en tout cas sur l'éléphant Fritz. Voilà, pour la ville, c'était un élément très important de son histoire, et c'était aussi très important de le rendre à sa condition d'éléphant et non plus à son condition de totem circassien d'image finalement un peu d'épinal, hein, de ce qu'est le vivant. Voilà, donc en tout cas un grand merci et puis bonne lecture.
Merci. Alors avant que les jurys se présentent, un petit bon peut-être de Charles Fournier qui il y a une semaine encore était notre député.
Mais dans bientôt de nouveau votre député, j'en doute pas. Oui, je suis au chômage grâce à Emmanuel Macron depuis dimanche soir, mais j'espère que ça va pas durer très longtemps. Je voudrais juste vous dire qu'à l'Assemblée nationale, et Betsabé l'a dit, c'est un combat sur le droit. C'est à la fois une bataille culturelle, la condition animale, mais c'est aussi une bataille de droit, sur les droits des animaux. Et vous savez que dans notre droit, les animaux sont des êtres sensibles, mais sont aussi des choses. Ils ne sont pas vraiment considérés comme ayant une personnalité juridique, et que c'est un des combats à mener, me semble-t-il. On y travaille d'ailleurs avec la Loire aussi, à qui on aimerait attribuer une personnalité juridique, parce que ce serait un moyen de défendre, d'ester en justice pour que finalement on cesse les barbaries, parce qu'il y a des barbaries régulières. Et donc c'est aussi pour ça que c'est une bataille culturelle. Et sans les associations, sans tous les acteurs qui œuvrent sur ce sujet-là, eh bien, il n'y aurait pas les alertes nécessaires, il n'y aurait pas le progrès culturel qui peut être le nôtre. Parce que je crois que nous progressons malgré tout. Et donc évidemment, les arts et la culture sont un des véhicules majeurs pour porter ces enjeux-là. J'ai participé pendant longtemps à un prix de la BD citoyenne en région Centre-Val-de-Loire et je sais combien les ouvrages, et en particulier la bande dessinée, sont des véhicules extrêmement importants pour gagner ces batailles culturelles. Voilà. Donc il faut la gagner là et puis j'espère pouvoir contribuer à la gagner encore demain.
Très bien. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, nos jurés vont se présenter à tour de rôle et puis ensuite, nous annoncerons les lauréats.
Bonjour. Alors, je vais présenter ma voisine. C'est une militante antispéciste, Camille Silvert, qui est chargée de campagne agroalimentaire pour L214.
Et à mon tour de présenter ma voisine, donc on a troqué les présentations, on était moins mal à l'aise comme ça. C'est Élodie Vieille-Blanchard qui est militante pour la végétalisation de l'alimentation depuis maintenant une dizaine d'années. Et juste avant qu'on soit à l'antenne, j'étais en train de lui dire le rôle important qu'avait joué son travail dans ma propre prise de conscience et le fait que je sois devenue végane moi-même il y a maintenant 9, bientôt 10 ans. Donc j'ai l'occasion de la remercier au micro pour son travail. Merci.
Bonjour, moi je suis Sophie Vizer, je suis vice-présidente de l'association Code Animal et vétérinaire à mes heures perdues. Et du coup, je suis militante sur le terrain et je fais au mieux pour faire changer, essayer de faire changer les lois et au quotidien de me battre pour le bien-être des animaux, quels qu'ils soient.
Bonjour, Pierre Lucot, moi je suis juste la caution... pour la parité de ce jury. Non, je suis également membre du mouvement Utopia et responsable de la commission Culture du Vivant. Utopia, c'est un mouvement d'éducation populaire, axé bien sûr sur l'écologie politique, parce qu'on fait tous de la politique et on est là pour en faire, surtout dans des moments aussi difficiles qui sont ceux que nous traversons actuellement. La cause animale effectivement est centrale, mais la culture surtout générale de la domination sous toutes ses formes, qu'elle soit de l'homme sur la femme, de l'humain sur les animaux, de l'humain sur la nature, voilà, c'est tous ces combats que nous menons en parallèle sans forcément les prioriser, mais on est heureux bien sûr de participer à ce jury et on remercie encore la Vegan Place pour cette organisation.
Bonsoir, je suis Izzy Ochoa, auteure du livre Fritz, qui est paru en fin 2018, qui raconte l'histoire de cet animal, cet éléphant de cirque qu'on peut admirer, hélas, au Musée des Beaux-Arts de Tours. À la suite de la parution de cet album, j'ai pensé qu'il était opportun de travailler sur un film documentaire sur cet éléphant et sur l'époque où il a vécu, de 1870 à 1902. Et ce film documentaire, j'ai réussi à trouver un producteur et une réalisatrice. Et vous pourrez le voir en septembre, j'ai oublié la date exacte, sur Arte d'abord, et France Télévisions l'a acheté également. Voilà. Donc je vais continuer dans cette lancée. Au départ, je suis illustratrice et auteure à mes heures perdues, là vraiment. Et Fritz m'a complètement ouvert la voie sur, il n'était pas trop tard, hein, vu mon âge, sur non pas la défense des animaux, ça je l'ai toujours été, mais vraiment concrètement, c'était ma façon de participer à la lutte contre les animaux de cirque, les animaux dans les cirques et dans les ménageries, les zoos. Je viens du 41 Beauval. Il y a du poids en face de moi, on va dire. Et donc Fritz m'a mis sur la voie du militantisme, on va dire actif. Voilà. Donc j'ai bien l'intention de continuer dans les documentaires. Bon, je ne vous dis pas que je vais en faire 10, hein, parce que c'est super long, c'est super compliqué. Il faut trouver. Il faut trouver les gens pour le faire. Je dis juste un mot, après j'en termine. La difficulté avec Fritz, c'était que... d'abord, c'est un documentaire télévisé de la chaîne Histoire. Et donc Fritz est traité comme un personnage historique. Je pense que c'est vraiment une première dans la mesure où, au départ, ça a fait peur à tout le monde que le personnage central soit un animal. Voilà. Donc, j'ai réussi ce challenge. Je peux vous dire que ça a été très, très dur. Je suis sur ce projet depuis 2018-2019 et il sort en septembre prochain. Voilà. J'espère que vous aurez tous l'occasion de le regarder. C'est un film extraordinaire pour moi. Je ne suis pas réalisatrice du film, hein, je suis juste co-auteur. J'ai initié tout ça. Voilà. Et vraiment, je pense que c'est un bel hommage à Fritz que je lui avais fait la promesse. Hein. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu cet éléphant, j'ai dit je te rendrai justice. Voilà. Et je pense que c'est fait maintenant. Merci.
Donc la remise du prix Maya maintenant, catégorie par catégorie.
Dans la catégorie roman, nous avons choisi de décerner le prix Maya à l'instruction d'Isabelle Sorrente. Nous avons apprécié la finesse de l'écriture de ce récit. L'honnêteté de la démarche de l'autrice qui était évoquée au fil du récit. Il s'agit d'une enquête sur les animaux d'élevage en même temps qu'une introspection avec une grande qualité d'écriture.
Alors, juste pour continuer sur le... Justement, on a eu un débat sur la totalité des titres qui ont fait l'objet de la sélection. Là, pour celui-là, il y a vraiment une unanimité, on peut le préciser. Même si les autres livres ont de grande qualité, on félicite vraiment le prix Maya pour la sélection qu'il y a eu en amont, mais particulièrement donc l'intrusion qui vient de sortir en poche et je crois qu'il est en vente à librairie à côté. Donc jetez-vous sur ce livre, c'est vraiment superbe.
Je vais juste faire un commentaire. Vas-y.
Alors dans la catégorie bande dessinée. On a récompensé La femme corneille de Camille Royer et Geoffrey Le Guilcher. C'est un ouvrage pareil, il y a eu vraiment des longs débats sur les bandes dessinées parce que c'était une très belle sélection et on les aimait toutes pour différentes raisons. Cette bande dessinée en particulier, on a aimé qu'elle soit à la fois instructive et poétique et surtout qu'elle mettait en avant la défense d'une espèce liminaire, donc les corneilles, dont la défense est encore méconnue dans la cause animale.
Alors, dans la catégorie jeunesse, nous avons décidé, ça a été très compliqué, nous avons décidé de décerner le prix au Gang d'Arlette. Donc, c'est donc un récit d'aventure qu'on a jugé drôle, assez piquant et original et qui aborde avec audace le sort des animaux d'élevage.
Alors, l'autrice est là, Dominique Mémy.
Merci beaucoup, vraiment merci. Je suis très très touchée. Alors pour Arlette, pour toutes ces poules en batterie, et voilà, pour toutes ces horreurs, et je pense que c'est bien qu'on soit tous là. J'ai fait une belle rencontre aussi, c'est Agatha. Voilà, je voulais le dire, qui était aussi en sélection. Et c'est le premier prix jeunesse que j'obtiens de ma vie. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre choix et puis aussi pour les belles rencontres que j'ai faites ici. Voilà. Après, je ne sais plus quoi vous dire.
Alors, juste un petit mot pour vous rappeler que tous ces ouvrages peuvent être achetés sur le stand de la librairie Rosemonde, librairie située à Tours et qui nous accompagne cette année. Donc, n'hésitez pas.
Pour Agatha, puisque tu es là, félicitations parce que ton livre a vraiment fait débat. On était très, très divisés. C'est très dur de choisir. Mais voilà, on voulait choisir les deux même. On a demandé s'il peut y avoir deux prix. On a dit non, on n'avait pas le droit. Donc, félicitations. C'était superbe. Donc, on vous conseille également le livre d'Agatha.
Alors, vous retrouverez d'autres autrices sur le stand dédicace, Clara Quadrado et Noémie, pour Le Monde des Animaux Perdus, qui est très, très bel album sur lequel on a beaucoup discuté aussi. Vous la retrouverez en dédicace sur le stand auteur. Donc, n'hésitez pas. Merci à vous.
Toc 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 to